France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Le pacifisme pour ce week-end de Pâques, une idée complexe et souvent instrumentalisée.
Monsieur le Président.
Comme le montrent ces deux versions de la fin de la célèbre chanson de Boris Vian, celle voulue par l'auteur antimilitariste et celle voulue par Mouloudji, pacifiste intégral, interprétée ici pour démonstration par les amis François Morel et Antoine Salaire.
Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes
que j'emporte des armes,
que je n'aurai pas d'armes
et que je sais tirer,
et qu'ils pourront tirer.
Le pacifisme est un isme protéiforme, un mot qui a évolué dans le temps depuis son apparition aux États-Unis au XVIIIe siècle. Il s'est adapté aux transformations des conflits et a pris son essor quand les guerres ont commencé à tuer plus de civils que de militaires. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de ce que l'on appelait les pacifistes intégraux, ces humanistes qui refusent toute possibilité d'action violente, même défensive, dans toutes les circonstances. Mais il y a toujours des défenseurs de la paix, et en réalité tout le monde s'affirme défenseur de la paix. Reste à définir de quelle paix. Arrêter le massacre quand le pays agressé est en position de soumission et l'agresseur en position de force du fait justement de son agression, est-ce du pacifisme? Parfois, ceux qui prônent la paix à un moment précis du conflit peuvent être des fauteurs de paix qui permettent au pays agresseur, paradoxe insupportable, de tirer les dividendes de la guerre qu'il a voulu. Dans le cas particulier de la Russie contre l'Ukraine, être pacifiste aujourd'hui, c'est certes prôner l'arrêt des massacres, mais est-ce vraiment œuvrer pour la paix, l'idée de la paix et surtout pour la paix durable?
S'il s'agit de soutenir l'Ukraine, de lui livrer des armes pour continuer à faire une guerre qui fait des centaines de milliers de blessés, tués, on participe à un véritable massacre.
Si c'était moi le président de la République, je ne m'y prendrais pas du tout comme ça. J'essaierais de me dire comment peut-on entrer dans la paix, au lieu de me demander comment on va faire pour entrer dans la guerre. Toutes les conditions sont réunies. Les Russes sont là depuis 2 ans à s'épuiser et à perdre du monde. Les Ukrainiens également. Il y a donc un chemin pour la paix.
Moi, je suis du côté de la paix. Je suis un patriote de la vie. Aujourd'hui, avec la bombe atomique, on ne peut pas se permettre de vouloir donc qu'un tel gagne.
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et l'écrivain Jean-Marie Roy représentent dans ce spectre politique et intellectuel français aujourd'hui ceux qui veulent la paix en Ukraine tout de suite. Et pour Jean-Marie Roy, à tout prix, ils veulent l'ouverture de négociations quand les autres forces politiques soutiennent que c'est à l'agressé et à lui seul de donner le signal de l'ouverture des pourparlers. En attendant, il faut aider l'agressé, l'armée, le soutenir pour qu'au moment de cette négociation de paix, qui viendra le plus tôt possible, il soit, lui, en position de force et non pas l'agresseur, en l'occurrence la Russie. Qui, dès lors, est le plus pacifiste? Être pour la paix aujourd'hui à Gaza, c'est autre chose. L'agresseur n'est plus défini. Le 7 octobre, agression terroriste est le point de départ de la réplique meurtrière d'Israël sur Gaza. Mais aujourd'hui, l'agressé, celui qui voit sa population civile subir des massacres et des crimes de guerre à répétition, c'est Gaza. Exiger la paix maintenant, dans cette partie du monde, la fin des massacres apparaît cette fois-ci comme un impératif. Le pacifisme est donc une idée complexe et plastique. Une idée qui peut cacher souvent un autre objectif que la paix véritable. Il faut donc se pencher sur l'histoire du pacifisme pour mieux en appréhender les contours plus ou moins sincères, plus ou moins humaniste, et c'est ce que nous allons faire ce soir en quête de pacifisme. Et pour nous aider dans cette tâche, nous sommes avec deux historiens spécialistes de la chose, Jean-Michel Gueux, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Tramor Kemener, spécialiste de la guerre d'Algérie.
Il n'y a plus qu'une seule chance pour le maintien de la paix. C'est que nous demandions à tous ces prolétaires, français, anglais, allemands, italiens, russes, de s'unir.
Aujourd'hui, beaucoup de militaires russes refusent tout simplement d'aller à la guerre. Et ceux qui y vont n'ont pas de motivation. C'est pour cela que Poutine essaye de recruter des gens en prison.
Peace now. La paix maintenant, la paix immédiate. À Washington, sur le parvis du Capitole, la première manifestation géante pour la paix immédiate au Vietnam 71, la plus importante.
Non à la guerre, oui à la paix. Environ 2000 manifestants pacifiques se sont rassemblés tout à l'heure, place de la République à Paris.
Des milliers de manifestants se sont rassemblés partout en France pour dénoncer la guerre et soutenir les Ukrainiens.
Là, on n'a pas perdu son temps. Si mauvaise que soit la société, n'est-ce pas ? On a empêché du malheur. Parce que c'est ça, empêcher du malheur.
Alors à partir de quand les hommes ont-ils commencé collectivement à se dire qu'il fallait mettre un terme aux guerres ? Pour explorer les débuts du mouvement pacifiste, j'ai interrogé d'abord Jean-Michel Gueux, maître de conférences en histoire contemporaine à la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages traitant du pacifisme dont « Gagner la paix » 1914-1929 aux éditions de la Sorbonne.
Un mouvement organisé, structuré qui défend la paix apparaît au début du 19e siècle dans l'espace anglo-américain puisque la première société pacifiste naît aux États-Unis en 1815. Et l'idée de ces pacifistes américains qui sont des protestants quakers qui ont un rapport à la paix très intransigeant, c'est-à-dire que nulle cause ne saurait justifier la guerre. Et donc ce pacifisme anglo-saxon a un peu de mal à atteindre le continent, mais c'est surtout dans la seconde moitié du 19e siècle que va naître en France les premiers mouvements pacifistes. Et la première société qui a un message vraiment orienté vers la paix, c'est la Société de la morale chrétienne, qui est présidée par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt et qui est créée donc en 1821. Dans cette société, on va retrouver des gens assez célèbres comme Guizot, comme Benjamin Constant, comme Lamartine, etc.
Oui, alors, le pacifisme est donc d'abord une aspiration religieuse, mais au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, c'est par le libéralisme, le libre-échange, la foi dans le progrès que l'idée d'une paix inéluctable apparaît.
Il y a une tradition libérale dans le pacifisme français qui va d'ailleurs inspirer bon nombre d'initiatives, par exemple sous le Second Empire, en 1860, le traité de libre-échange avec l'Angleterre, qui va d'ailleurs essaimer un peu l'exemple, va essaimer dans le reste de l'Europe.
C'était l'idée que le commerce et la liberté du commerce, les échanges, permettaient au peuple de se connaître et surtout de créer des interdépendances qui allaient peut-être interdire toute guerre.
Exactement, c'est-à-dire que ces mouvements qui défendent la paix se rattachent aussi à une tradition héritée des Lumières. On peut dire que les physiocrates, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, par l'idée du libre-échange, ont déjà commencé à former une doctrine assez précise visant à développer le commerce comme moyen de rapprocher les peuples.
La paix par l'économie, mais aussi dans ce siècle qui voit naître les États de droit, la paix par le droit.
C'est justement dans ce moment de fièvre révolutionnaire et de guerre en Europe que Kant, en 1795, va publier un petit ouvrage qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle ».
L'état de paix n'est pas un état de nature.
Emmanuel Kant, philosophe.
Celui-ci est bien plutôt un état de guerre. Même si les hostilités n'éclatent pas, elles constituent pourtant un danger permanent. L'état de paix doit donc être institué. Car s'abstenir d'hostilité, ce n'est pas encore s'assurer la paix. Et, sauf si celle-ci est garantie entre voisins, ce qui ne peut se produire que dans un état légal, chacun peut traiter en ennemi celui qui l'a exhorté à cette fin.
Dans l'idée de Kant, il y a plusieurs manières de construire la paix. La première chose, c'est le régime politique des États qui vont s'associer. Il insiste sur la forme républicaine. républicaine n'est pas forcément antagoniste avec le terme de monarchie, mais il faut absolument que le régime s'accompagne d'un système représentatif et que les pouvoirs soient séparés. Donc on peut dire que ce projet est aussi un peu une anticipation du projet européen, puisque c'est par la fédération, c'est un projet assez politique en réalité, hein, c'est par la fédération des États européens républicains que l'on aboutira à une paix durable.
Mais à l'époque, Victor Hugo par exemple, il parle des États-Unis d'Europe, il parle de paix.
Alors là, évidemment, Victor Hugo, on est autour de 1849, notamment, puisque se tient à Paris, au moment où la France est devenue la Seconde République, se tient un congrès de pacifistes, et Victor Hugo a ce discours très célèbre où il parle des États-Unis d'Europe, hein, qui doivent tendre la main aux États-Unis d'Amérique.
Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées, comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
La religion, puis le libéralisme économique, les sociétés de droit, et maintenant, en ce début du XXe siècle, devant l'émergence des nationalismes français et prussiens, c'est le socialisme internationaliste qui sera la source du pacifisme.
Les socialistes considèrent que c'est le système capitaliste qui porte la guerre.
Jean-Michel Gueux, historien du pacifisme.
Jaurès aura cette formule assez célèbre en 1895 où il dira que la société capitaliste porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Mais Jaurès réussit à faire un peu la synthèse finalement entre ce pacifisme ouvrier et aussi, finalement, ce pacifisme plus bourgeois qui défend des méthodes juridiques. Et notamment, Jean Jaurès est tout à fait favorable à l'idée de l'arbitrage international. Il considère que c'est l'État qui refusera l'arbitrage international, qui se montrera comme l'État agresseur.
Au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, il n'y a plus qu'une seule chance pour le maintien de la paix.
Jean Jaurès, interprété ici par Bernard Fresson dans Jaurès, vie et mort d'un socialiste.
C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces et que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar.
Jaurès essaye de concilier, et il y a un véritable rapprochement entre le mouvement ouvrier et le mouvement pacifiste plus bourgeois, qu'il y a aussi un pacifisme qui est beaucoup plus radical, qui est de l'antimilitarisme, qui est rejeté par les pacifistes bourgeois, parce que ces pacifistes bourgeois considèrent que la défense nationale l'emporte sur finalement la paix, et que si la France est agressée, il faut qu'elle se défende, alors que les antimilitaristes considèrent que les ouvriers n'auront pas à participer à une guerre bourgeoise qui n'est pas la leur. Mais il y a effectivement un antimilitarisme assez bruyant qui se développe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, notamment un socialiste, Gustave Hervé, qui finalement donne une vision du pacifisme plutôt antimilitariste, mais qui ne correspond pas à la majorité des pacifistes français qui sont beaucoup plus modérés, qui ne remettent pas en cause la défense nationale et qui davantage portent l'idée de régulation internationale.
Est-ce vrai ?
Quoi ?
La mobilisation.
Ce n'est pas possible.
S'il y a la guerre, partirez-vous ?
La guerre ?
Extrait d'une adaptation pour la télévision de la pièce de Roger Martin Dugard, Les Thibauts.
En 24 heures, elle peut s'abattre sur toute l'Europe. Vous ne voulez pas la guerre ? Eh bien, n'y allez pas ! Ne vous laissez pas faire ! La presse vendue vous parle de guerre juste. Comme s'il pouvait être juste de condamner à la mort des millions d'innocents.
La guerre en 1914 ne paraît pas si inéluctable qu'on le dit souvent. Un mouvement pacifiste, socialiste, mais aussi libéral existe. Et à la veille du conflit, le sentiment pacifiste est plus répandu que ce que l'histoire retient habituellement, nous dit Jean-Michel Guieux.
Finalement, on a vaincu au XIXe siècle un certain nombre de fléaux, comme l'esclavage, comme un certain nombre de maladies endémiques, comme la prostitution. Donc la guerre, c'est un des fléaux de l'humanité qu'il faudra bien vaincre. La guerre n'est pas une fatalité.
C'est quand même une période où, pour la première fois, et l'idée que la paix est possible, la paix n'est pas forcément une utopie, mais c'est simplement le fait de prolonger les lignes des valeurs de la République et des Lumières qui s'installent en ce début de XXe siècle en France. L'idée de la paix est très importante. Et assez répartie, même si elle n'est pas générale. Et pourtant, on va vivre, en 1914, la guerre sans doute la plus terrible de l'histoire jusqu'à la prochaine. C'est un paradoxe.
Oui et non, c'est-à-dire que les pacifistes eux-mêmes avaient alarmé depuis longtemps sur l'idée que la prochaine guerre serait une guerre extrêmement meurtrière, catastrophique. La guerre moderne serait une tueuse d'hommes comme à nul autre pareil. Mais maintenant que la France est attaquée, eh bien, c'est le réflexe patriotique qui joue. Parce que ces pacifistes ne sont pas des antipatriotes, ne sont pas des apatrides. Ils ont toujours soutenu la défense nationale. Ce ne sont pas des objecteurs de conscience comme on pourrait le trouver dans les milieux anglo-américains.
Nous explorons aujourd'hui l'idée du pacifisme en quête de politique. Et si vous avez loupé le début de cette émission, pas de problème, vous pouvez nous podcaster. 1914, donc, Jaurès est assassiné, la guerre est déclarée et c'est finalement l'union sacrée. Vous l'avez entendu avec Jean-Michel Guieux, l'union sacrée. Tous les partis politiques, socialistes, pacifistes d'hier compris, s'en vont gaillardement en guerre. Mais paradoxe, ça ne veut pas dire que le pacifisme est mort. Voilà la guerre pour la paix.
Cette idée de la guerre pour la paix, eh bien, ça veut dire que cette guerre doit être menée pour abattre notamment le militarisme allemand, l'impérialisme germanique, qui empêche l'Europe d'arriver à se mettre d'accord pour établir une paix durable. Et en quelque sorte, le sacrifice que vont endurer les combattants dans les tranchées, eh bien, doit amener une paix durable.
Donc la der des der, voilà, c'est pas après l'horreur des tranchées. C'est simplement, abattons le dernier potentat antidémocratique, anti-républicain d'Europe, l'Allemagne prussienne, et faisons triompher la démocratie. C'était une guerre démocratie contre autocratie ou contre une Allemagne militarisée.
Bon, sauf qu'il y avait quand même l'alliance franco-russe, où la société russe n'était pas particulièrement démocratique. Mais il y a bien l'idée que l'Allemagne s'opposait déjà depuis longtemps à la construction de la paix.
La guerre, la boucherie de 14-18 ressuscite un mouvement pacifiste très puissant, bien sûr, le pacifisme post-traumatique.
Il faut bien penser que dans la société française des années 20, il y a 6 millions d'anciens combattants et qui n'ont qu'une obsession finalement, c'est que la guerre ne revienne jamais. Mais au-delà de cela, il y a aussi toujours des associations pacifistes qui désormais militent pour la société-nation qui a été mise en place à la suite du traité de Versailles en 1919. Mais cette société-nation est une institution qui est encore jeune, fragile, qui ne répond pas complètement à l'idéal que l'on avait forgé du temps de guerre, où en France, on avait imaginé une société-nation accompagné d'un bras armé qui, lorsqu'un État se lancerait dans une guerre d'annexion, de conquête, eh bien, trouverait face à lui une communauté internationale soudée qui viendrait le remettre dans le bon chemin. Et on a vu dans les années 30 à quel point cette sécurité collective n'avait pas réussi.
Pour le 11 novembre 1918, tout à coup, sur toute l'étendue de l'immense front qui barrait l'Europe d'un réseau de fils de fer barbelés de la mer du Nord aux Dardanelles, se furent apaisés les tonnerres.
Joseph-Paul Beaucourt, député SFIO.
La sonnerie des cloches a seul rompu le silence. Une immense espérance a traversé nos cœurs. Elle était faite du sentiment général et profond que c'était la dernière des guerres. C'était la promesse suprême qui avait été faite à nos morts.
Il est vrai que les instituteurs avec les anciens combattants sont vraiment ceux qui installent le sentiment pacifiste au cœur de la société.
Les villes, les villages, il y a les monuments aux morts qu'on installe, il y a tous les estropiés dans les rues, sur les bancs, dans les squares, et la guerre est encore
visible,
très présente.
Et très palpable.
Visible.
Voilà, c'est la grande différence finalement avec l'avant 1914, c'est que avant 1914, finalement, les anciens combattants de 1870 étaient assez peu visibles dans la société.
Dans l'entre-deux-guerres, plus jamais ça, la der des der, ce pacifisme d'état de choc domine d'abord. Et le pacifisme intégral, celui qui refuse la guerre en toutes circonstances, qui au 19e et au début du 20e était plutôt le fait de chrétiens, particulièrement de certains protestants, eh bien il se développe après la boucherie, les tranchées, bien au-delà des sphères religieuses. L'écrivain Romain Rolland en est l'une des figures.
J'ai maintenu en dépit de tout la fraternité franco-allemande, je fus pour cela, pendant 4 ans, le français le plus haï en France. Encore à l'heure présente, beaucoup de ceux qui avaient été mes amis d'avant 1914 ne me l'ont point pardonné. Qu'il en soit ainsi, je ne pouvais agir autrement.
Mais devant la montée du nazisme et des fascismes européens, cette position, le pacifisme intégral, très en cours dans les milieux universitaires et littéraires, s'émousse. Peut-on rester pacifiste devant la barbarie qui se dresse? Le spectre de la guerre pour la paix de Léon Bourgeois réapparaît. Le philosophe Paul Ricoeur, à la fin de sa vie, est revenu sur ce dilemme du pacifiste qui l'a toujours taraudé.
J'ai eu toujours des hésitations fondamentales entre des tentations, je dirais, ou des pulsions pacifistes, et d'autre part, un sens de la défense par la force du droit. Bon. Et je dirais que je n'ai jamais clairement résolu ce problème-là. Mais pour en venir précisément à mon retour en captivité,
oui.
Où est-ce que je vais quand je reviens d'Allemagne? Eh bien, je vais dans un petit collège protestant de la Haute-Loire qui avait été pendant 5 ans le refuge de jeunes juifs. Mmh. C'est le collège du Chambon-sur-Lignon. Et alors, c'était des pacifistes, n'est-ce pas? Des gens qui ne voulaient pas participer à la guerre par les armes, mais par la résistance non-violence. Donc se rattachant à une tradition gandhiste, ou la tradition que l'on retrouvera chez Martin Luther King. Et c'est là que j'ai fait la connaissance des Quakers américains. C'était les Quakers qui avaient armé spirituellement les protestants du Chambon-sur-Lignon et les fondateurs de ce collège protestant. Et c'était un peu là, au fond, une protestation contre la guerre en général. Vous voyez, c'était une sorte de jugement global qui a réémergé périodiquement. J'ai des espèces de bouffées pacifistes ou gauchistes de temps en temps, 68, et confronté à, je dirais, un sens quasiment hegelien de la nécessité des institutions.
En quête de politique sur France Inter.
Les années 30. Alors il faut revenir à Kant et à son projet de paix perpétuelle, rédigé en 1795, on l'a entendu en début d'émission. La paix n'est possible qu'entre voisins dans un état légal, dit le philosophe. Alors c'est un peu désespérant, mais c'est logique. La paix n'est possible qu'entre pays pacifiques et donc qui ont un état de droit. On est bien avancé. À la Société des Nations, à Genève, on tente justement de faire vivre cette légalité. Il faut écouter ce discours poignant et à vrai dire un peu désespéré de Léon Blum, le président du Conseil français, à la tribune de la SDN, de la Société des Nations, en 1936. Hitler est déjà au pouvoir depuis 3 ans, et le droit des nations, c'est pas vraiment son affaire.
Je n'achève pas, messieurs, par un cri d'alarme, mais par une protestation d'espoir et de confiance. Nous sommes des délégations. Derrière chaque délégation, il y a un gouvernement. Derrière chaque gouvernement, il y a un peuple. Il vous demande de mettre un terme à ce que Hugo appelait la grande insomnie du monde.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Juin 40, l'effondrement, le syndrome de 1940, va porter un coup très dur au mouvement pacifiste.
Jean-Michel Guieu, maître de conférence en histoire contemporaine des relations internationales à l'université de Paris 1.
Une minorité de pacifistes, les plus radicaux, vont aller du côté de la collaboration. Donc ça va contribuer un peu à décrédibiliser le mouvement pacifiste. Et puis surtout, je dirais que les forces de paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont surtout du côté de la gauche communiste. C'est-à-dire que l'Union soviétique va faire en sorte de développer un grand mouvement en faveur de la paix et que désormais le camp de la paix est complètement identifié dans cette guerre froide qui s'amorce au camp soviétique.
Tout le monde était d'accord sur une chose. À bas la bombe, vive la paix. En 1950, les partisans de la paix avaient lancé l'appel de Stockholm, réclamant l'interdiction de la bombe atomique. Mais la rivalité des blocs faussait les cartes. Au fur et à mesure, le mouvement de la paix contrôlé par les communistes devenait un instrument de la guerre froide, entre les mains de Staline, contre le pacte atlantique. Alors choisir cette paix-là, n'était-ce pas simplement choisir l'un des deux camps, le communisme? La colombe qu'avait choisi Aragon pour symboliser la paix devenait plus célèbre que la Joconde. Picasso l'avait dessinée.
C'est une paix instrumentalisée, un pacifisme instrumentalisé par les soviétiques.
Alors oui, mais ceux qui participent, et notamment le mouvement de la paix qui va se constituer autour de 1950, regroupe aussi de véritables militants pacifistes sincères qui s'affolent de l'arme nucléaire. Donc ce n'est pas uniquement une instrumentalisation du pacifisme par le camp soviétique, ça répond aussi à une véritable inquiétude qui est claire dans une partie de la société française.
Une vraie inquiétude générale à mesure que les grandes puissances se dotent de la bombe atomique. Mais en dehors des manifestations du mouvement de la paix, on l'a vu largement téléguidé par le PCF, sur instruction de Moscou dans le cadre de la guerre froide, la France ne connaît pas de parti de la paix massif. Le traumatisme de juin 40 est toujours vivace. Cependant, un courant de pacifisme minoritaire va se développer à la faveur des guerres de décolonisation d'Indochine et d'Algérie. Et pour bien comprendre les atermoiements, les faiblesses et aussi les réussites du mouvement pacifiste, il faut revenir sur la vie extraordinaire d'un personnage, un héros du pacifisme, Louis Lecoing. Il nous faut pour ça repartir un peu en arrière, au début du XXe siècle.
Grande figure que Louis Lecoing, figure libertaire.
Tramor Kémener, historien du pacifisme.
Qui a traversé effectivement tout le XXe siècle et qui naît dans le Cher à la toute fin du XIXe même, qui est appelé à participer déjà à la Première Guerre mondiale et qui, dans ce cadre-là, en fait, va diffuser des tracts qui appellent justement à la fin des combats, qui sont véritablement dans une fibre anarchiste, antimilitariste, et ce qui le conduit en fait à passer toute la guerre quasiment en prison. Donc voilà, on voit quelqu'un qui est libéré mais remis en prison parce que refusant à nouveau de participer à cette guerre, donc un refus radical, entier et plein de la guerre.
Paix immédiate. Malgré tout l'effort des pacifistes sincères, le sang coule.
Louis Lecoing, des décennies plus tard, relit pour la télévision son tract pacifiste de la Première Guerre mondiale.
Alors faisons vite la paix. N'attendons pas qu'elle nous soit offerte par des fauteurs de guerre. Le prix de la paix ne sera jamais aussi rubineux que le prix de la guerre. Exigeons la paix.
Et quand arrive la guerre de 1939, en fait, il y a cet appel à la paix immédiate que lance Louis Lecoing.
Là, ça devient compliqué quand même, parce qu'on arrive avec la montée des périls, comme on dit dans les manuels d'histoire, et finalement, il s'agit quand même de se battre contre les nazis. Comment se situe Louis Lecoing dans ce cadre-là ?
Alors Louis Lecoing, en fait, il appartient à cette tendance-là qu'on appelle justement le pacifisme intégral. Sauf que, évidemment, face à des nazis, on ne peut pas être dans ce même cas de figure.
Mais alors, du coup, Louis Lecoing, on arrive à rencontrer quelqu'un comme Marcel Déa.
Voilà, ouais. On peut considérer qu'il fait partie des personnes qui discutent avec les collaborateurs et peuvent passer du côté du collaborationnisme. Alors, ce ne sera pas le cas. Il va aller dans des camps d'internement, mais il est vraiment complètement marginalisé parce que dans les camps d'internement, évidemment, on va trouver des personnes qui ont voulu lutter contre les nazis et qui se sont retrouvées ensuite prisonniers.
Il s'oppose même à la résistance.
Ah, en tout cas, il est marginalisé par rapport aux résistants. Il est interné, et une fois qu'il va pouvoir sortir, certains disent même qu'il est sorti tôt, finalement, et une fois qu'il sort, en fait, il rentre chez lui, et on n'entend plus parler de lui. Donc, à la libération, il est totalement marginalisé.
Alors Louis Lecoing se fait oublier à la Libération, mais en réalité, il ne disparaît pas tout à fait, et pas pour longtemps.
Il y a un événement qui me paraît important à souligner, c'est le procès d'un objecteur de conscience qui s'appelle Jean-Bernard Moreau. Donc là, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Jean-Bernard Moreau refuse d'aller sous les drapeaux, est un objecteur de conscience. Il est condamné pour cela par le tribunal militaire de Paris. Et en même temps, on a un prêtre qui était collaborationniste qui, lui, est libéré. Et donc, ce deux poids, deux mesures, en fait, est insupportable pour beaucoup de personnes. Du coup, la médiatisation du procès, notamment par Louis Lecoing, va lancer une nouvelle campagne en faveur de l'objection de conscience, avec plusieurs dépôts de loi en faveur d'un statut des objecteurs de conscience à partir des années 40-50. Et on va avoir aussi la création, avec Gary Davis, des citoyens du monde. Gary Davis, c'est un citoyen américain qui assiste à ce procès-là, et lui est tellement choqué, en fait, qu'il déchire ses papiers américains, et il se déclare, à partir de ce moment-là, citoyen du monde.
1948, c'est à Paris que l'ONU proclame la Déclaration des droits de l'homme.
La paix, but poursuivi depuis 3 mois par la session des Nations Unies réunies à Paris, et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations et voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Après la session de Chaillot, la tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible. C'est justement contre ces lenteurs que quelques jours auparavant, Gary Davis, premier citoyen du monde, s'était élevé à la tribune du Vélodrome d'hiver.
Nous n'avons pas d'illusions sur les difficultés que nous attendent.
Gary Davis, l'un des créateurs des citoyens du monde.
Mais nous devons choisir entre les difficultés et les massacres de la guerre. Moi, j'ai choisi.
Louis Lecoing devient l'inlassable militant pour la reconnaissance de l'objection de conscience. Cette possibilité, qui n'est pas encore reconnue dans ces années d'après-guerre, de se soustraire au service militaire en invoquant sa conscience et son refus d'utiliser les armes.
Là où l'objection de conscience va véritablement reprendre des vigueurs, c'est au cours de la guerre d'Algérie. Louis Lecoing perd son épouse, en fait, au début de la guerre d'Algérie. Il est vraiment affecté par cela, et puis à un moment donné, en fait, il se dit « toutes mes dernières forces, en fait, d'hommes âgés, je vais les mettre en faveur d'un statut des objecteurs de conscience. »
Il y avait un objecteur de conscience, André Chalard, qui avait été conduit comme objecteur de conscience à Tindouf, aux confins de la frontière algérienne et marocaine. Là, il a vu des cas d'esclavage. Il les a dénoncés en Algérie.
Il y a deux cas de figure par rapport à ces objecteurs de conscience et les personnes qui refusent la guerre d'Algérie.
Tramor Kemener, historien du pacifisme.
D'un côté, en fait, on a ce qu'on appelle des objecteurs intégraux. Quelles que soient les circonstances, ils refusent de participer. Il y en a une centaine à peu près. Ils sont en prison, notamment Edmond Chaguenet, qui, lui, a passé 9 ans en prison en tout. Alors, beaucoup, en fait, de ces objecteurs-là aussi appartiennent à la secte des témoins de Jéhovah. Ils sont plutôt marginalisés de ce fait-là. Néanmoins, Louis Lecoing dit, quels qu'ils soient, en fait, ils ont le droit de refuser de participer à la guerre, de ne pas porter l'uniforme, de ne pas tuer. Et puis, au fur et à mesure, en fait, aussi, on a des personnes qui refusent la guerre d'Algérie en tant que telle.
Pour des raisons politiques, pas pour des raisons forcément non violentes.
C'est une mauvaise guerre. Voilà. Dès 1955, la question se pose. D'ailleurs, il y a un tract qui est diffusé à l'église Saint-Séverin en septembre 1955, où ils disent « Si nos bras tremblent en tirant sur nos frères musulmans, c'est parce que notre conscience se soulève. Nous n'appelons pas à un refus d'obéissance individuelle, mais à un refus d'obéissance collectif. » On est en septembre 1955. C'est le tout début, en fait, où il y a une mobilisation des soldats dans la guerre d'Algérie. Ça impulse un mouvement, finalement, au fur et à mesure, qui va se retrouver avec des personnes qui vont soit refuser d'obéir en tant que telles aux ordres et qui vont se retrouver en prison, soit vont carrément s'insoumettre ou déserter et partir dans la clandestinité, voire en exil aussi, en Suisse, en Belgique ou ailleurs. Et Louis Lecoing arrive dans ce cadre-là et il se dit il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes-là. En janvier 1958, il lance sa campagne. Au fur et à mesure de la guerre, l'idée va faire son chemin. Elle va faire son chemin même jusqu'auprès du général de Gaulle.
Et puis peut-être que l'idée d'insoumission, c'est quand même le général de Gaulle, pour lui, tout militaire et tout général qu'il était, résonnait avec sa jeunesse.
Bien sûr, et en 1940, il a été condamné pour désertion, hein. Condamné à mort pour désertion, donc ça revêtait quelque chose aussi pour lui, et il pouvait évidemment très bien accepter que d'autres personnes refusent de participer. Il voyait avec un bon œil aussi la figure de Louis Lecoing, c'est quelqu'un qu'on peut considérer qu'il l'appréciait.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Et nous allons continuer à cheminer le long de la vie de Louis Lecoing, ce grand pacifiste français qui portera le combat pour la reconnaissance du statut d'objecteur de conscience. L'un des moments clés du pacifisme d'après-guerre, c'est bien sûr le conflit d'Algérie et les révélations de torture de la part d'officiers français. Un général, le général de Bollardière, ancien résistant et officier d'active, est sanctionné, renvoyé de l'armée pour s'être insurgé contre l'utilisation de la torture.
Sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans. Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place. Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN.
Ce sont des grandes figures et on trouve à la fin de la guerre d'Algérie à la fois cette campagne de Louis Lecoing qui commence.
Tramor Kémener, historien du pacifisme.
Qui porte ses fruits aussi parce que d'abord on a une limitation du nombre de condamnations à 5 années en tout pour les objecteurs de conscience, donc ça limite.
Il y a les amnisties aussi.
Il y a les amnisties aussi, oui, tout à fait. Ouais. À partir de 60, on a aussi une autre organisation qui se met en place, qui est l'action civique non violente. Et l'action civique non violente, c'est justement cet ensemble, ce regroupement entre des chrétiens et des pacifistes libertaires. On a des personnes qui viennent d'un peu partout et qui finalement se disent que ils peuvent refuser en fait de participer à ce conflit-là. Ils préfèrent être emprisonnés, résister de manière non violente avec des manifestations qu'ils mettent en place, avec des personnes qui s'enchaînent, qui se donnent le même nom de l'objecteur de conscience. Alors on a trouvé 15 Pierre Boisgontier, par exemple, pour donner le nom d'un des premiers objecteurs de conscience de ce mouvement-là. Et donc le temps que la police retrouve qui est le vrai Pierre Boisgontier, ils ont fait parler d'eux. Tout ça demande du temps. Et puis après, il y a le temps aussi du procès, pour le procès Boisgontier, qui va être évidemment médiatisé aussi. En 1962, c'est la fin de la guerre. Louis Lecoing n'en peut plus. Il n'en peut plus des promesses. Et donc, à 70 ans passés, il se dit maintenant, c'est maintenant ou jamais, il n'y a plus la guerre, il faut le statut des objecteurs de conscience.
Mais on n'a pas perdu son temps. Si mauvaise que soit la société,
n'est-ce pas ?
On a empêché du malheur. Parce que c'est ça, empêcher du malheur.
Louis Lecoing se met en grève de la faim. Il a plus de 70 ans et il fait 20 jours de grève de la faim. Il est vraiment cadavérique et le général de Gaulle finit par accepter qu'il y ait un statut des objecteurs de conscience à partir du 21 décembre 1963. Louis Lecoing a réussi à obtenir ce statut-là.
Louis Lecoing meurt en 1971 et le statut d'objecteur de conscience que le général de Gaulle aura autorisé ne sera véritablement complété et démilitarisé qu'en 1981 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'était une promesse du candidat Mitterrand.
Le ministre de la Défense s'est penché aujourd'hui sur le sort des objecteurs de conscience. Depuis ce matin, toutes les poursuites engagées contre eux sont supprimées.
1983, la loi précise les conditions de l'objection de conscience et entre cette date et la fin du service national en 2002, plusieurs milliers de jeunes gens ont accepté de faire un service civil dans les eaux et forêts, dans diverses associations humanitaires ou caritatives plutôt qu'un service militaire. Pour la première fois, le pacifisme intégral est reconnu par le législateur comme une conviction respectable et non pas comme une trahison ou une lâcheté. À la fin des années 60, au début des années 70, la jeunesse des pays occidentaux est largement pacifiste. Hein, c'est la génération Peace and Love, les baby-boomers, futurs boomers nés dans l'euphorie de l'après-guerre. Ils s'opposent à la culture nationaliste et militaire et à la guerre au Vietnam. Dans les années 80, c'est la présence de l'armée américaine sur le sol européen et l'installation des missiles en Allemagne pour faire face aux lance-missiles soviétiques dressés contre l'Europe de l'Ouest qui nourrit le renouveau du pacifisme européen.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des manifestants par centaines de milliers en Allemagne et en Grande-Bretagne. Le but de ces manifestations, protester contre l'installation des euromissiles américains en Europe.
Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est.
Les missiles sont à l'ouest, les pacifistes à l'est, dit François Mitterrand. Avec cette formule, le président est certain de rencontrer l'assentiment des Français parce que, en France, le pacifisme, eh bien, ne prend toujours pas. Le souvenir de l'humiliation de juin 40 en est-il la cause, près de 50 ans plus tard. S'agissant du pacifisme, il y a une question délicate. Où commence-t-il? Où finit-il? Faut-il vouloir la paix dans le monde comme toute Miss France qui se respecte, ou plus sérieusement comme tout militant d'une association non violente, pour être un pacifiste? Ou suffit-il de vouloir éviter la guerre, non pas en général et par principe, mais cette guerre, celle qui se prépare, parce que ce serait une mauvaise guerre? Souvenez-vous, 2003, les États-Unis voulaient envahir l'Irak sur un mensonge, et ce jour-là, beaucoup de Français étaient plutôt satisfaits d'être Français.
Et c'est un vieux pays qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
Dominique de Villepin, c'est du pacifisme ou pas ?
Oui et non, en quelque sorte. D'un côté, on peut penser oui, parce que...
Tramor Kemener, historien du pacifisme.
C'est un discours qui refuse la guerre en s'appuyant sur des valeurs de droit international, en s'appuyant sur des valeurs morales et qui contribue en fait à aller dans ce sens-là d'un refus de la guerre en tant que telle dans des circonstances données. D'autres vont considérer que non, nous ne sommes pas forcément dans un discours pacifiste en tant que tel, puisque Dominique de Villepin ne récuse pas la guerre en général et toutes les guerres en tant que telles. C'est une guerre en particulier à un moment donné.
Et au nom du droit ?
Au nom du droit, effectivement. Et donc
on revient au début de notre émission et au début du siècle.
Oui, complètement, oui, tout à fait. C'est en s'appuyant effectivement sur ces notions de droit et même en revenant justement sur les conférences de La Haye, par exemple, et des éléments comme ça, où on s'appuie sur le droit pour refuser la guerre. Donc dans un cadre donné, en tant que tel, et cadre international aussi.
Le pacifisme, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une doctrine, mais c'est éminemment politique. Du moins, c'était. Au moment de la Première Guerre mondiale, la culture populaire, principalement la chanson populaire, écrite dans les tranchées ou en souvenir des tranchées, était le premier vecteur des idées pacifistes.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini. C'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin. Où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin.
Certaines ont même traversé le XXe siècle, comme la Butte Rouge, multi-interprétée, Yves Montand, Renaud, et bien sûr, dans le célèbre album Motivé, en 1997, le groupe Zebda reprend la Butte Rouge, cette chanson écrite en 1923 par Monteus.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de bon muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu des larmes cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans.
Two, one, two, three, four. Mais surtout dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire à la fin de la période de la décolonisation et pendant la guerre froide, les jeunes occidentaux principalement faisaient vivre le pacifisme à travers les mouvements beatniks, puis
hippie et à travers le folk et le rock.
I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall.
And it's a long, hard road. It's a long, hard.
Dans un beau documentaire passé sur Arte en 2015, Peace and Pop, le saxophoniste Joshua Redman osait cette image. Je ne sais pas si la musique peut être un contre-modèle à la confrontation guerrière, mais elle génère mutuellement un sens de l'empathie. Pour moi, dit-il, toute bonne musique est une forme de paix. Peace and Love, la paix était l'un des thèmes principaux de la musique de ces années, composé par les petits-enfants des combattants de la Première Guerre mondiale et les enfants des combattants et des victimes de la Seconde.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Cher à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Paix, oh dis-moi paix, veux-tu bien revenir s'il te plaît, note mon parent sait. J'ai essayé de t'écrire mais tu ne réponds pas, passe faire le hello. Les mots ne comptent pas et si tu doutes encore que ça peut aider, sache qu'un nombre infini de personnes ici continuent de t'aimer. Même si bizarres sont les âmes et que des prétendants viennent te draguer avec des armes, laisse tomber paix.
Et pour finir, je vous signale les derniers livres de nos deux invités, Jean-Michel Guieux, Histoire franco-allemande, L'heure des choix, coécrit avec Alia Aglan et Johan Chapoutot aux éditions Septentrion, et plus récemment, La paix dans la guerre avec Stéphane Tison aux éditions de la Sorbonne. Et pour Tramor Kémener, Mourir à Sakiet, enquête sur un appelé dans la guerre d'Algérie avec Véronique Gazot aux éditions des Presses universitaires de France. Cette émission, comme toute la collection d'enquêtes de politique, est disponible à la réécoute en podcast sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter. Et je vous signale que nous avions déjà consacré une série de deux numéros sur le pacifisme. C'était en 2022, toujours disponible, bien sûr. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, à la technique ce soir Corentin Rouchy et à la programmation musicale Thierry Dupin. Je vous retrouve dimanche prochain. Après le journal de 18h, il sera question de progressisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.